Salut les amis.
Salut Charline.
Bon, alors attention, on va parler du film Chez nous.
Ah oui, mais tout le monde en parle, le film de Lucas Bellevaux.
Mais il y a pas un truc qui vous choque?
Non, on reçoit André Dussolier, il est super.
Ah oui, c'est papa de Tanguy.
Papa de Tanguy, il veut foutre tout le monde à la porte. Dans Tanguy, hop, son fils, dans Chez nous, hop, les Arabes.
Donc il y a rien qui vous choque avec le film, quoi.
Non,
mais le titre c'est
Chez nous.
Voilà, c'est ça. Et ça parle de quoi?
Du Front National.
Exact. Et c'est réalisé par
Lucas Bellevaux.
Voilà, donc
il y a rien qui choque.
Mais enfin quand même, le film Chez nous en France, il est réalisé par un Belge.
Il aurait dû dire chez vous ou chez eux.
Non, c'est pas ça. Pourquoi? Alex.
Non. Oh non, mais c'est ça. Qu'un Belge comme ça vienne héroïquement combattre le Front National. Ouais. On dit quoi, les filles?
Merci.
On dit merci qui?
Merci la Belgique.
Voilà, Charline, ça va?
Non, vous comprenez rien. Et franchement, avec des gens comme vous, on va vite prendre le pouvoir.
Prendre le pouvoir.
Mais c'est qui on?
Les Belges.
Je piche plus rien. C'est surréaliste.
Oui, surréaliste, c'est de chez nous.
Je sais. Oui.
Lucas Bellevaux, le Belge.
Oui.
Il fait un film en France. Qu'il appelle Chez nous.
Oui.
Et il s'installe tranquille et vous voyez du feu, quoi.
Mais pourquoi?
Ça se confirme parce que dans le film, il parle du FN qui est inquiet de l'arrivée des Noirs et des Arabes.
Oui.
Et pas des Belges.
Bam!
Il brouille les pistes. Résultat, le grand remplacement, vous n'allez pas le voir arriver, ce sera nous. Paf!
On va diriger la France, voilà. C'est génial, j'adore.
De
toute façon, nous deux, on est déjà dirigés par vous.
Ouais, c'est
vrai. Ah oui, c'est vrai. Voilà, papa boulot là. Hein.
Mais si nous on dirige la France, ben qui va diriger la Belgique?
Ah merde.
Faut peut-être demander aux Corses.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme un rôti. Et voici les trois informations qui finiront en rondelle à 18h. Nous avons la gauche la plus con du monde, puisque ses forces refusent de s'unir, offrant ainsi un boulevard au Front National. Voici pour preuve la teneur des négociations entre Hamon et Mélenchon.
Je ne céderai pas au chantage. Votre honneur, je m'assois dessus.
Hubert, vous êtes ignoble.
Vous assumerez les responsabilités de votre nouvelle sottise.
La France s'est trouvée un nouveau fiancé, mais pour qu'il devienne l'homme idéal, elle a dû l'envoyer en orbite. C'est Thomas Pesquet, le super-héros qui tweete des photos de la Terre et bouleverse le point de vue.
Ah ouais, quand même.
Quoi?
C'est plus grand que je pensais, la Corse.
L'Afrique.
La diplomatie et Donald Trump, elle est aussi gênante que tout le reste, et notamment cette poignée de main interminable au japonais Shinzo Abe qui en est sorti traumatisé, le pauvre.
Une simple poignée de main risquant de lui broyer les métacarpes, ça fait 20 ans qu'il évite de sortir de chez lui.
Voilà le résultat. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés le diplomate de la blague.
Évidemment.
Et oui, celui qui installerait le Quai d'Orsay au point virgule, c'est Alex Vizorek.
C'est pas mal tourné. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, à 17h20, l'homme qui caracole en tête des sondages, 98% de nos auditeurs le plébiscite comme étant le meilleur éditorialiste de droite de cette émission.
C'est
vous, Pablo Mira, bonjour.
Allez, salut Alex, bonjour à tous. Allez, question, qu'est-ce qui est jaune et qui trône sur la cheminée d'André Dussolier? Non, c'est pas les chicots de Marine Le Pen, mais bien ces trois statuettes des Césars, les Césars qui auront lieu vendredi soir à la salle Payel. On en reparle tout à l'heure.
Très bien, 17h30, les deux autres pourcents du public pensent que le meilleur éditorialiste de droite de cette émission, c'est lui. C'est vous dire si certains auditeurs n'écoutent pas la radio. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui j'ai appelé un homme qui a écopé 33 euros d'amende pour avoir fouillé dans une poubelle à Puteau.
Je pense pas que j'ai fait une chose de grave.
Et voilà, le laxisme, top de la démission. Pardon, excusez-moi. Et enfin, 17h40, vous l'entendez rire élégamment sous ce lancement. Celle qui se gave uniquement de livres, ce qui explique cette silhouette fine et élancée d'une femme qui saute plus de repas que de chapitres. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour, je ne saute aucun repas.
Je vais me pencher sur chez moi, nous, chez nous.
Ah
chez
oui
nous.
On a
nous,
été dans le film ensemble.
Et voici celui qui a tout annulé pour venir chez nous, justement. C'est François Truffaut qui vous offre votre premier rôle au cinéma dans Une fille belle comme toi. Vous entrez alors dans la nouvelle vague en tournant avec Éric Rohmer, Jacques Rivette et Alain René, avec lequel vous tournerez plus tard On connaît la chanson. Le grand public vous découvre dans Trois hommes et un couffin de Colin Serrault. Et puis vous retrouve notamment dans La chambre des officiers. Et puis vous êtes aussi la voix de la narration dans Amélie Poulain. Oh, on vous a reconnu. Vous êtes.
Oui.
Je vous laisse nous le dire de votre voix profonde et grave.
André Dussolier.
Ah, la chance.
Là, c'est lui, c'est lui.
Voix. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
C'est classe, c'est ce que tout le monde nous a dit dans les couloirs. Aujourd'hui, on dit, c'est qui l'autre invité? Ben, on dit, oh, c'est du Solier. Tout le monde répond, c'est classe.
Alors, quand on a eu Jean-Louis Debré, tout le monde a fait, ah, merde, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pas un peu réducteur, André Dussolier? C'est classe.
C'est classe.
C'est réducteur.
Je me sens déjà presque à côté de Thomas Pesquet, quoi. Pour l'attitude, quand je domine un peu les choses.
André Dussolier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le jour où sort en salle le fameux Chez nous, qu'on va enfin pouvoir voir après en avoir tant entendu parler, de Lucas Bellevaux, avec notamment Catherine Jacob, Émilie de Ken, aussi Guillaume Gouix, Anne Marivin, Patrick Descamps, notamment Alex Vizorek et Juliette Arnault sont allés le voir, je vous laisse entre leurs mains.
Mais oui, on a été le voir, on a passé un excellent moment, on est sorti avec plein de questions, et je crois que c'est ça aussi l'intérêt du film, c'est pas toujours de donner les réponses, mais c'est de poser plein de questions. On a parlé beaucoup sur cette antenne du fond du film, et on a la chance de vous avoir, vous André Dussolier. Je voulais parler du choix d'acteur, parce que vous êtes toujours considéré comme un type super, les gens vous adorent. Et là, vous choisissez un rôle où on pourrait sortir du cinéma en se disant « Mais quel salaud !» Je pense à vous et à Anne Marivin qui joue une connasse formidable.
Eh oui,
et est-ce qu'on réfléchit juste, hein. Mais oui, bien sûr, mais est-ce qu'on réfléchit à ça?
Est-ce que c'est un rôle de composition? C'est la question d'Alex.
Ah oui, c'est ça, il essaie de le sonder déjà tout de suite. Ah oui, les rôles par définition sont tous des rôles de composition, déjà de Staline jusqu'à celui-là ou bien de Tanguy. Ou... Bien sûr, non mais je pense que c'est assez rare de faire des films politiques en France.
Bien sûr.
Donc là, c'était un rôle évidemment attirant parce qu'il est manipulateur et ça peut exister à l'intérieur des partis. Puis il représente un peu toute l'histoire de ce parti du Front National, enfin du Bloc, hein, faut dire.
Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun lien...
Non, je pensais afficher... Et donc, il représente un peu l'histoire. Et donc, aujourd'hui, il représente la bonne image que veut se donner le Front National. Et donc, il essaye d'attirer dans ses filets cette jeune infirmière qui rassure tous les électeurs. Et donc, voilà, c'est un rôle intéressant à partir du moment où il est rassurant en tant que médecin. Oui. Et en effet, il se dévoile bizarrement.
C'est quelqu'un qui, depuis 20 ans, suit cette politique, a envie de l'amener au pouvoir. Ouais. Et... il en existe beaucoup, sans doute, des comme vous, dans la vraie vie, parce qu'on est dans le Nord.
Oui, et il dans tous les partis. Hein. Ouais. Mais je pense qu'on doit se donner des belles images, encore plus, enfin, dans ce parti-là, évidemment. Ouais. Ça, c'est essentiel aujourd'hui. On voit bien, quand même, qu'ils essayent de mettre de côté toute l'image un peu violente qui appartient plus à Jean-Marie Le Pen. Et puis, maintenant, c'est Marine. Donc, en effet, ça existe, sans doute, de vouloir... Aujourd'hui, il y en a eu beaucoup d'ailleurs qui sont rentrés dans les mairies un peu partout en France et qui en sont partis d'ailleurs assez vite. Enfin, j'ai appris ça entre-temps. Mais oui, c'est la vie d'un parti. C'est la première fois qu'on voit ça de près au cinéma.
Pour travailler le rôle, vous avez regardé certains... Je pense à un Valrand Saint-Just ou des gens comme ça.
Pas trop, en fait. Tout était là, déjà dans les dialogues. Fait par Lucas Bellevaux, belge qui parle du Front National. Alors qu'en Belgique, je pense qu'à 20 km comme ça du nord, là où on a tourné, il n'y a pas tellement de partis extrémistes. Je n'ai pas l'impression qu'à Wallonie, la
Parce
droite
qu'il
soit
est interdit
si
à la
violente
télévision
que ça.
Et il est interdit dans les médias.
Ah bon ?
L'extrême droite est interdite dans les médias francophones.
En tout cas, en direct, c'est-à-dire que je pense qu'en Wallonie, en tout cas, le FN existe, hein, c'est le Front National en Wallonie. Il fait quoi, 0,2%?
Ah, voilà.
Parce qu'on lui a jamais donné la parole comme ça en direct, jamais de tapis rouge, de
long. C'est pour ça que le Cabello a fait le pas et
Qu'il y a une énorme différence de culture à ce niveau-là dans le traitement entre la Belgique et la France. Vous avez senti, vous, dans la façon dont il vous dirigeait ou il vous parlait des choses, dans le travail même d'acteur ou de mise en scène? Vous avez perçu ce décalage aussi?
Pas trop. Il lui-même est acteur et donc ça s'est passé assez naturellement. Je ne connaissais pas et on s'est tout de suite bien entendu autour des scènes. Il y a une sorte de suspense comme ça à travers un dialogue assez serré. Et ça s'est passé tout à fait agréablement. Il connaissait bien Émilie de Ken, qui joue le rôle de l'infirmière et qui est le rôle principal de ce film-là. Et donc tout s'est passé, je trouve... Très simplement, quoi.
Agréablement. C'est la première fois que vous êtes dirigé par un Belge.
Oui.
Et bim, dans la foulée, le Magritte d'honneur.
L'équivalent du César d'honneur en Belgique. Eh oui, évidemment.
La classe.
Oui, évidemment.
Ça vous a ému, ça vous a retourné.
Vu la situation actuelle, il est bien possible quand même que je sois obligé d'aller trouver refuge en Belgique.
Lors de cette cérémonie, dans votre discours, vous avez demandé éventuellement l'asile politique si ça se passe mal. Et on essaiera de vous l'accorder.
C'est pour la fiscalité. Hein.
Non, pas du tout. Avec notamment Patrick Descamps, qui est un acteur récurrent chez Lucas Bellevaux. Hein,
qui joue le père d'Émilie.
Voilà, avec
lui, il est très communiste. Alors, c'est toute l'histoire de ce... des électeurs du Front National.
Ça ramène à niveau humain les réflexions qu'on a parfois au niveau politique. Et ça amène beaucoup de questions.
On va en reparler avec Juliette Arnaud tout à l'heure et à l'occasion de certains sujets qu'on va traiter avec vous, André Dussolier, de Chez nous, de Lucas Bellevaux, qui sort en salle aujourd'hui. Juliette Arnaud, elle kiffe ce morceau.
Oui, elle voudrait être réincarnée en basse de Nile Rodgers, si c'était possible. Merci.
Ouais, on a encore pris du LSD.
Sur France Inter, en compagnie d'André Dussolier, que vous pouvez voir dès aujourd'hui dans le fameux film Chez nous de Lucas Bellevaux. On va en reparler tout à l'heure avec qui autour de la table d'ailleurs. Ah,
déjà Pablo Mira qui va, à mon avis, recadrer les Césars. Je suis pas sûr que vous allez y aller, André. Il y aura Guillaume Meurice et Juliette Arnaud qui parlera du film, bien évidemment.
Voilà. Et puis on va bien se mettre d'équerre sur l'information parce qu'il s'est passé plein de choses entrée du Solier.
Évidemment.
On va vous donner une bonne base pour aborder cette émission. Oui, c'est parti.
La plus belle arme, c'est la sincérité.
Le journal de presque 17h17.
Nous allons installer le printemps dans ce pays.
Et on commence par les titres.
Le fils Balkany, Alexandre Balkany, a été mis en examen pour blanchiment. Il est en prison car il n'a pas pu payer la caution.
Ah, il est plus de deux.
Il est fils unique, donc plus que deux. Nicolas Dupont-Aignan est furieux contre TF1 qui ne le conviera pas au débat entre les 5 favoris.
Exactement. Suite à ça, Grand Corps Malade le soutient et demande à TF1 de l'inscrire à Danse avec les Stars.
C'est généreux. Il y aura des brèves ?
Oui, dont une que au moins 50 auditeurs m'ont envoyée. Merci les gens d'aimer les brèves parce qu'elles vous le rendent bien.
Merci les auditeurs.
fera une brève du Nord d'ailleurs. François Bayrou a enfin fait son choix. Il a annoncé il y a une demi-heure qu'il ne serait pas candidat.
Ah non ! Non, ouais. On avait envie qu'il aille perdre une quatrième fois.
Oui, c'est comme ça. Il va rejoindre Emmanuel Macron.
Voilà. Ah oui, donc celui dont il avait dit que c'était le candidat des forces de l'argent, c'est ça ?
Voilà, c'est celui-là même. Ouais. Voilà.
Et alors, Éric Ciotti a dit.
Le génial Éric Ciotti.
Ah, pardon. Oui. Le génial Éric Ciotti a eu cette phrase. François Bayrou, c'est l'expérience de la trahison.
Oui, et il s'y connaît, Éric, lui qui a longtemps été un proche de Sarkozy.
Nicolas Sarkozy, justement, qui va rejoindre le conseil d'administration d'Accor Hôtel.
Et c'est la crise pour tout le monde. Il va passer du Fouquet's aux hôtels Formule 1. Pas de bol.
On espère qu'il s'est amélioré, en tout cas en matière d'hospitalité.
Et oui, la dernière fois qu'il a fait dormir un ami libyen, c'était sous une tente dans les jardins de l'Élysée.
Oui, sans doute que l'autre avait mis un mauvais commentaire sur TripAdvisor.
Oui, et puis ça s'est fort mal terminé.
Passons donc à cette surprise. Oui. Le fils du couple Balkany a été mis en examen pour blanchiment. Il est en prison car il n'a pas pu payer la caution.
Oui, ça, les Balkany ont toujours eu un problème avec leur fisc. Oui, bien sûr.
On souhaite bien sûr aux parents Balkany de voir très vite à nouveau leur petite famille réunie.
Bien sûr, quand il sortira de prison.
Je voulais dire quand les parents rejoindront.
Voilà. Politique, avec ce gros choc dans le paysage politique français.
Oui, alors qu'il s'était engagé à soutenir le vainqueur de la primaire, François de Rugy, rallie Emmanuel Macron.
Dans la même journée, Bayrou de Rugy.
Évidemment, ça redistribue toutes les cartes.
Oui, mais un écologiste qui retourne sa veste, Macron tient son Jean-Vincent Placé à lui.
Front National à présent.
Oui, avec une belle ambiance dans les meetings. Hein, André, vous avez bien analysé ça. Le Petit Journal s'est rendu à un meeting, justement, et a vu que les militants détestaient les journalistes jusque dans leur lapsus.
BFMVC, qu'est-ce que c'est que BFMVC ?
Le problème. BFM comment ?
BFM TV.
Merde.
Pas de bol.
Science, la NASA s'apprête ce soir à annoncer une découverte au-delà de notre système solaire.
Le mauvais timing de ces gens. Faire une annonce le même jour que François Bayrou, mais comment la NASA va se faire voler la vedette ?
Grippe aviaire, les 600 000 canards encore vivants dans les Landes vont être abattus.
Oui, en attendant l'instant à l'autre, la déclaration d'Emmanuel Macron sur ce crime contre les palmidés.
Presse, dans une interview accordée à l'édition française du magazine Vanity Fair, Anne Sinclair est revenue sur les infidélités de son ex-mari, Dominique Strauss-Kahn.
On ne l'a pas lu, mais c'est quoi un numéro exceptionnel de 13 954 pages. Allez-y.
Ça, ce sont les pubs. Allez, les brèves.
Une magnifique une. Non, c'est pas un titre. C'est pas une, c'est un titre du journal L'Union. Le gang des tronçonneuses amputées de 4 membres.
Ah, j'imagine ce sont les risques du métier.
Et oui, disons qu'ils se sont fait prendre en train de voler des tronçonneuses. Quoi. Prendre la main dans le sac.
Ah, voilà. Une dernière.
La brève du jour. Lance. Il tente de braquer son bar habituel. Les clients le reconnaissent. Mais c'est JC, crie-t-il.
C'est dommage.
C'est ballot. Quand t'es réduit à faire un braquage, pour éponger ton ardoise.
Il est 17h25 à Paris et à Sevrier, c'est près d'Annecy.
Oui, exactement. 6 km d'Annecy, sur le bord du lac.
JC, vous parliez de JCBD ?
Non, ni de Jésus-Christ.
Jean-Claude Van Damme n'y est pour rien.
Ni de Jérôme Cahuzac.
Non.
Très bien. Il avait pourtant des problèmes d'ardoise à une époque.
Ils sont nombreux, on pourrait faire une longue liste. On est ensemble jusqu'à 18h, on va plutôt en profiter pour discuter avec vous, André Dussolier. Ce premier sujet, tiens, si la gauche décidait de s'unir, voilà ce que ça pourrait donner. Mélenchon plus Hamon, ça fait grosso modo 25%. Plus Jadot, ça fait 27%, soit le niveau du FN prévu par les sondages pour le premier tour. Donc si la gauche refuse de s'unir, est-ce qu'elle peut être tenue pour responsable du péril qui nous guette ?
Je sais, comme dirait Gabin, que l'extrême droite, ce n'est pas le fascisme. Je sais. Mais on a quand même le droit d'être fasciste, même si on n'est pas d'extrême droite, merde ! C'est vrai quoi, les gens, dès que vous dites « je suis fasciste », vous regardent d'un mauvais œil, alors qu'il suffit de ne pas le dire et personne s'en aperçoit. Et on a marre, je suis un citoyen comme les autres. Vive la France, vive le Führer !
Louis Rigaud au tribunal des flagrants délires. Alors, on a décidé de prendre le problème par ce côté-là aujourd'hui. Cette histoire de l'union impossible de la gauche, de Hamon qui ne s'entend pas avec Mélenchon ni avec Jadot, cette espèce de triangle amoureux impossible finalement. Est-ce qu'il est susceptible, vous, André Dussolier, comme citoyen, de vous mettre en colère ? Ou bien, vous l'avez vu.
La gauche aime la difficulté. Non, mais la gauche finit toujours par avec des idées de gauche. Et puis finalement, enfin, c'est un peu ce que je constate de loin, comme un citoyen.
Oui.
lambda, mais c'est que ça commence bien à gauche et puis finalement ça évolue toujours un peu en fonction de l'économie, donc on va toujours vers la droite. Mais avec Mitterrand c'était un peu ça, et puis avec la gauche actuelle aussi on l'a vu, avec Valls. Et là maintenant on est un peu dans un champ de ruines quand même. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir des gauches irréconciliables et...
Mais humainement, l'idée que si on additionne statistiquement le chiffre des trois, de Jadot, oui, de Hamon et de Mélenchon, il serait numéro un s'il n'y en avait qu'un.
Trop simple.
Non, mais exactement. Ce petit côté humain, quand il se retrouve à trois autour d'un café, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'y passe? Est-ce que vous comprenez qu'ils ne puissent pas ressortir ensemble?
Est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce que c'est vraiment...
C'est pas...
Oh non.
Les idées, non, c'est les idées. Oui, on va mettre les idées.
Ah oui, d'accord. Moi je pense que c'est les idées. Hein,
c'est pas des gens qui ont des gros égos.
Non, mais
voilà. Je ne sais pas ce que peut se dire, en tout cas. Comment
ils peuvent négocier. Déjà, ils ont du mal à se voir. Ils ont déjà du mal à se réunir. Ouais. À trois, c'est impossible. Déjà, à deux, ils galèrent. Et à si trois, on n'en parle même pas.
Si on vous met autour d'une table avec Rochefort et Lucchini et qu'on vous dit il y a une pièce à trois, choisissez vos rôles à trois, comment vous feriez?
J'ai bien fait de parler des égos. Parce que, ça devient très, très dur. Oui, vous savez ça. Que sur un film...
Définissez
exemple,
un premier rôle, il vous dirait.
Oui, oui. Mais c'est un des derniers films qui s'est fait comme ça. Je crois que Par Contrat, c'était Borsalino, il y avait Delon et Belmondo, et le nombre de gros plans était identique pour les deux. Vous voyez un peu le casse-tête du metteur en scène, peut dire que... Bon. Donc j'imagine que là, ça doit être la même chose. Non, le contrat doit faire 100 pages, non?
Quand on dit Belmondo, c'est Yannick Jadot ou pas dans l'histoire? Je suis complètement perdu.
Il est écolo, Delon. Mais donc finalement, on peut dire qu'on peut les tenir pour responsables aussi du boulevard qui s'ouvre au Front National, puisque si l'union elle se fait mécaniquement, normalement ils ont leur chance.
J'ai l'impression que ça fait un moment quand même que le Front National a un boulevard, non? On peut dire qu'enfin moi je me souviens 2002 déjà, c'était quand même un moment clé et c'était d'une grande tristesse quand j'ai vu Lionel Jospin dire je renonce, etc. En disant bon voilà j'ai été battu, et j'ai l'impression que ça ne fait que grossir. Mais en même temps ça ne passe jamais le deuxième tour. Et on a fini toujours par se le dire et on continue à se le dire. Peut-être qu'on aura... on ne sait jamais. Tout est possible. C'est dingue, cette campagne, non? Peut-être que Hamon passerait...
Campagne, elle a clairement été piratée par les Russes. Sinon, je ne comprends rien. C'est pas possible.
Quand vous avez choisi le rôle, vous vous êtes dit, je vais faire un acte politique un peu.
Non. Pas trop, quand même. Non, j'ai pas l'impression que ça va avoir une incidence de toute façon.
C'est pas pareil.
Un film, c'est qu'un film. Ouais. Hein,
c'est pas pareil de se le dire et puis de voir ce que ça fait.
Oui, on s'attendait pas à ce qu'il y ait cet effet-là. C'est vrai que la réaction du Front National sur la bande-annonce, uniquement sur la bande-annonce, était disproportionnée et puis malvenue. Enfin bon, ça n'avait pas de rapport avec le film. Puisque c'est un film qui raconte l'adhésion des gens du peuple au Front National et de voir un peu quelles sont les raisons pour lesquelles ils y adhèrent. D'habitude, on entend toujours les leaders parler. Là, tout d'un coup, on a un film où on voit la description de ce qui se passe à la base. Donc, c'était pas mal et intéressant. Là, tout d'un coup, je pense qu'ils ont vu comme un crime de lèse-majesté la représentation de Marine Le Pen par Catherine Jacob, qu'ils ont très maltraitée,
super idée,
juste par le biais de la bande-annonce.
André Dussollier est avec nous jusqu'à 18h. On va passer à celui qui, par sa simple absence dans ma vie pendant une semaine, a réussi à dérégler mon cycle menstruel.
Je ne savais pas.
C'est écrit, c'est Pablo Mira. Et vous revenez, je crois, sur la cérémonie des Césars qui se tient vendredi soir à la salle Playel. Vous voyez le rapport.
Exactement, Charline. Allez, vendredi, disons-le, il ne faut pas manquer la cérémonie des Césars car c'est l'une des rares occasions de l'année de voir tout le cinéma français réuni au même endroit, hormis bien sûr au Festival de Cannes et à l'agence HSBC de Genève. Alors, attention, cette année, on est gâtés quand même car ce sont de véritables monstres du cinéma qui sont attendus à la salle Playel, comme Georges Clooney, qui recevra le César d'honneur, mais aussi Georges Clooney, encore Georges Clooney, sans oublier évidemment l'excellent, vous l'avez deviné, Georges Clooney. Mais vous savez, pour moi, les Césars, c'est surtout l'occasion d'être fier de notre cinéma, hein, le cinéma tricolore. Parce qu'on a de vrais bons comédiens et comédiennes en France, hein, y a André qui est là aujourd'hui, et puis il suffit juste de voir à quel point ces gens font semblant de s'apprécier au cours de la cérémonie. Daniel Day-Lewis en Mohican m'impressionnera toujours moins que Jean-Pierre Darroussin qui claque la bise à Guillaume Gallienne. Soyons fiers. Et arrêtons deux secondes de nous comparer aux Américains. C'est ridicule. Aux États-Unis, les films ont des budgets démesurés et des salaires astronomiques pour les comédiens, alors qu'en France, nos films ont des budgets minuscules et des salaires astronomiques pour les comédiens. Moi, je le dis, j'aime cette cérémonie parce qu'elle fait rêver. Voilà, elle fait rêver. Et elle suscite d'ailleurs des vocations. D'ailleurs, petit scoop, voilà, je le dis, je suis en train d'écrire mon premier
long métrage. Oh là là, ouais, oui, premier long métrage. Et d'ailleurs, c'est Juliette et Thomas VDB qui m'ont inspiré. Ce sera un peu comme le film Sixième Sens, hein, de M. Night Shyamalan, mais sans les fantômes. Hein, là, le petit garçon qui joue les héros verra des gens qui ne savent pas qu'ils sont atteints d'une cirrhose. Alors, bien sûr, pour revenir à notre sujet, André, il y a toujours ceux qui critiquent les Césars. Eh bien, ils ont tort. Ouais. Les Césars, c'est pas le cinéma qui se regarde le nombril. Là, comme ça, faut arrêter ça. Les Césars, c'est le cinéma qui regarde sa Rolex pour savoir à quelle heure il va enfin pouvoir aller bouffer au Fouquet's. Seul point noir, hein, à cette soirée féerique, c'est l'absence de Roman Polanski, évidemment, après son retrait suite à la polémique autour de sa nomination en tant que président de la cérémonie. Rappel, Roman Polanski est accusé de viol sur mineur aux États-Unis, une affaire qui remonte à 1977. Là, je le dis, j'en ai marre des polémiques stériles. D'ailleurs, j'aimerais vous lire ce qu'a dit le comédien Gilles Lelouch à propos de tout ça. Je trouve ça brillant. Accrochez-vous. Il dit donc, je cite, « En France, on fait des polémiques de tout. On meurt de ça dans ce pays. » Il a raison, Gilles, je veux dire. Encore hier, j'ai vu un garçon... Un petit garçon traverser la rue et se faire renverser par une polémique qui ne s'est même pas arrêtée. Donc oui, je suis déçu. Je suis déçu de l'absence de Roman Polanski. Mais bon, je me dis que de toute façon, il n'aurait pas aimé ça. Une cérémonie de 42 ans, j'imagine que ça aurait été un peu trop vieux pour lui. Mais il ne faut pas que cette polémique sur Roman Polanski là, empêche les gens de regarder les Césars. Parce que ça reste le plus bel hommage qu'on puisse rendre à cette longue histoire que notre pays entretient avec le 7e art. Je rappelle... que c'est en France que le cinéma est né quand même grâce aux frères Lumière en 1896. Et puis c'est en France aussi qu'il a été tué par Yann Moix en 2008 avec Cinéman. Tout de même. Pour conclure, Charline, si vous me le permettez, moi ce que j'aimerais c'est remercier tous ceux qui m'ont permis de faire cet édito, évidemment, aujourd'hui. Oui, toutes ces personnes qui... L'émotion monte là, c'est dur. Ces personnes qui m'ont permis de vivre cette aventure humaine. Alors tout d'abord... mes parents, dont j'ai oublié le prénom. France Inter aussi, bien sûr, qui a accepté de prendre le risque de mettre quelqu'un de droite à l'antenne. Vraiment, oui. Ça se salue. Merci à France Inter. Et puis, je voulais aussi remercier tous les techniciens voilà, qui sont là en régie et qui, voilà, on l'oublie trop souvent, sont aussi des êtres humains. Je remercie Dieu, Charline, évidemment, qui m'a permis d'exister avec un physique bien au-dessus de la moyenne. Et puis, bien sûr, je remercie celui qui, tant qu'il ne serait pas là aujourd'hui, c'est Mehdi, mon chauffeur Uber. Tu les as mérités, tes 3 étoiles. Allez, salut.
Merci, Pablo Mira. César du meilleur menteur de cinéma. Qu'on peut revoir aussi sur franceinter.fr, je tiens à lire, parce qu'il y a des mimiques.
Il y a de la mise en scène.
Il y a de la mise en scène, il y a de la mimique. Donc,
il a pleuré
pas.
Là, par exemple.
N'hésitez pas,
c'est vrai.
Allez, André Dussolier est avec nous jusqu'à 18h. Profitons-en, vous êtes sur France Inter.
C'est comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin, comme si la grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant, comme si qui sera été et que la mécanique s'essoufflait. Passons pas trop vite, le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas, et que le réveil ne sonnait pas. Comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil roule des doigts et que les étoiles ne brillaient pas. passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite.
Gaëtan Roussel avec Rachida Brakni et Lady Sœur, Le Temps Passe. Donc on enchaîne tout de suite, on est sur France Inter avec André Doucelier qui vient nous présenter Chez nous, le film de Lucas Bellevaux qui est en salle dès aujourd'hui avec notamment Catherine Jacob, Émilie Dequesne, Guillaume Guix, Anne-Marie Vin, Patrick Descamps, Charlotte Talpart et Stéphane Caillard. Comme ça on a cité
bravo,
une partie de l'équipe. Alors à cette heure-ci
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bah oui.
C'est Guillaume Meurice. André Doucelier, je suis désolée, on est obligé de passer par là. Puis on reviendra à vous tout de suite. Hein.
Voilà, voilà. Je vais vous parler surtout aujourd'hui délinquance. Et figurez-vous que ça concerne quel département ? Les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, les Hauts-de-Seine. Hein. C'est pas une grosse surprise. Je sais, à ce niveau-là, c'est plus un marronnier. C'est carrément la forêt entière. Hein. C'est l'usine de crème de marron. Mais alors attention, là, on déconne plus avec la énième magouille du 92. Hein, celle qui ferait passer Scarface pour Oui Oui et la forêt magique. Non, là, c'est autrement plus grave. Attention, les amis. Je vais vous parler de la délinquance des gens qui fouillent dans les poubelles de la ville de Puteaux. Voilà. On est face à une sorte de vide ordure gate. la maire Joëlle Secaldireno a pris un arrêté il y a quelques temps pour interdire cette pratique. Alors moi je suis allé ce matin plutôt à la rencontre des habitants. Alors ce premier, qu'est-ce qu'il pense du fait de fouiller dans les poubelles ?
Ben c'est que faudrait que ça s'arrête parce que bon avec tout ce qu'on a dans le quartier qui traîne un peu, aussitôt vous mettez bien votre poubelle tout, ils retournent tout.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans le quartier alors ?
Dans le quartier ben c'est qu'il y a trop de personnes comme ça qui sont comment je pourrais vous dire qui traînent quoi.
Il y avait des pauvres alors ?
Des pauvres, c'est des pauvres. J'en ai attrapé un, c'est... Attendez, aujourd'hui c'est mercredi. Est-ce qu'on sort les poubelles le lundi ? Mardi.
Voilà, hein, tous les mardis à Puteaux, vous pouvez vous aussi attraper un pauvre. voilà, vous pouvez le dénoncer à la police. Désormais, ça vous rappellera votre jeunesse. Coucou maréchal, nous revoilà. Alors après, les policiers, bien sûr, lui mettront une amende à ce pauvre. Une amende de 33 euros exactement. Est-ce que c'est bien normal ? Demandons à un autre habitant.
C'est normal.
C'est normal ?
Oui.
Mais c'est des gens qui ont peut-être déjà... pas beaucoup de sous, alors est-ce qu'ils vont les payer ?
Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de sous. Ils font la manche devant le supermarché, puis après montent en BMW. Sans...
C'est vrai, vous avez vu ça ?
Bah oui.
Ah ouais ?
Oui.
Eh ben oui, oui. Alors c'est des pauvres, les Hauts-de-Seine. Hein. Donc la BMW, plutôt, c'est comme une Lada hein, chez nous, dans le reste de la France. Puis c'est fou ce qu'on peut se faire comme thune en revendant des trucs pourris et en les faisant passer pour des trucs flambant neufs. Hein. Regardez Macron, hein, c'est exactement sa stratégie. Bon, alors après, il paraît qu'il y a des gens qui fouillent les poubelles pour leur survie. Voilà, il paraît. Alors est-ce que ça pourrait pas être légitime de ne pas les laisser crever ?
Je suis d'accord, mais bon, il y a des endroits où ils pourraient fouiller dans les poubelles. C'est-à-dire, quand vous les voyez fouiller en bas des poubelles, en bas de chez vous, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve par terre.
Il faudrait faire des zones autorisées pour fouiller dans les poubelles.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire.
Excellente idée. Des zones de, une sorte de zone de pauvres, quoi. Voilà, avec plein de choses que les pauvres aiment bien faire pour s'occuper, fouiller dans les poubelles, massacrer Edith Piaf à l'accordéon. Des occupations de pauvres, hein, finalement, voilà. Parce que là, c'est pas compatible avec la vie à Puteaux. Et c'est mieux, même pour les pauvres, hein, parce que fouiller dans les poubelles, c'est pas bon pour eux. Ça, c'est un autre habitant qui me l'a dit.
Ouais, c'est pas bon. Ça amène des maladies aussi pour celui qui le fait, premièrement. Il est attaqué, mais médicalement, c'est malsain.
Ah, vous pensez qu'elle a pris cet arrêté pour protéger les gens ?
C'est fort possible.
Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, moi.
C'est possible.
Hein. Eh ouais, mais c'est vrai, j'avais pas envisagé l'aspect humaniste de l'arrêté municipal. C'est vrai, elle devrait en prendre un d'ailleurs pour que les pauvres arrêtent de bouffer tout court. Hein. Parce que le pauvre se nourrit très mal, on le sait. Hein. Il va au Lidl, il préfère les marques premier prix, c'est très cancérigène. Le pauvre est négligent, hein. Souvent on le sait ça. Hein. Et donc il devient délinquant. Voilà. Et j'en ai interrogé un délinquant qui a été verbalisé par la police de Puteaux. Il s'appelle Luc. Alors j'ai lu un article sur lui dans le Parisien, figurez-vous. Oui, j'aime bien lire les journaux qui appartiennent aux milliardaires, ça m'inspire beaucoup. Alors Luc d'ailleurs il est pas spécialement pauvre, c'est juste qu'il aime pas trop le gaspillage alimentaire. Voilà, il y a un tiers des aliments produits sur cette planète qui est gaspillé. Alors quels sont les produits que Luc récupère dans les poubelles ?
Parfois périmés, mais parfois ils sont pas périmés. Des légumes, des fruits, des yaourts. Moi ça fait à peu près un an que je le fais.
Ah vous êtes un multi-récidiviste alors ?
Ouais.
Eh ouais, voilà, c'est l'engrenage, hein. L'engrenage évidemment de la grande délinquance, hein, on sait ce que c'est. On commence par saucer son assiette avec du pain et puis on finit par faire du trafic d'éplucheurs de patates et de yaourts même pas périmés. Et le pire, c'est que Luc, il est pas seul à agir ainsi.
on est, je sais pas, plusieurs personnes qui ont le fait. Et je crois des personnes qui...
Ah, si vous êtes en plusieurs, oui. C'est de la délinquance en bande organisée.
Exactement.
Exactement, Luc. Voilà, Luc est obligé de passer aux aveux, hein, bien sûr, hein, devant l'évidence. Hein, il fait sans doute partie d'un véritable gang, hein, qui pille les poubelles. Le cartel de Puteau, voilà, la bande à Luchot, on pourrait l'appeler. Ça fait froid dans le dos, hein, quand même, de penser qu'on peut même plus gaspiller de la bouffe tranquillement. Allez, pour conclure sur cette infamie, j'avais une dernière question pour Luc.
Bon, est-ce que vous allez le refaire? Alors, c'est la question qui se pose.
Je pense que oui, je vais le faire. Hein. Je vais passer quelques jours et je serai grave. Et...
Ah, vous êtes un rebelle. Hein. Est-ce que vous vous sentez un petit peu comme le Che Guevara du yaourt?
Oui, un peu.
Ah oui, un petit peu beaucoup, voilà, le Lorenzo Lamas version Yoplait. Donc, rappel quand même, à plutôt interdiction de s'approcher des ordures. Faites gaffe donc, hein, quand vous irez à la mairie.
Merci Guillaume Meurice de dénoncer, c'était important de...
Oui, ou d'informer, tout simplement, je dirais la population.
Ouais,
c'est ma mission.
C'est votre projet.
C'est mon projet. Excusez-moi.
On va aborder le deuxième sujet avec André Dusselier qui est avec nous, parce qu'on en vient à se demander, mais c'est quoi véritablement le job de Thomas Pesquet dans l'espace? Parce qu'il tweet, il prend des photos, il rédige un blog, il donne des interviews, il est sur Facebook. De là où il collabore même avec des artistes, il a chanté avec les Enfoirés, à tel point qu'il y a un article de Slate qui se demande, mais à quoi sert Thomas Pesquet?
C'est une Miss France.
C'est pas, rappelons que la conquête spatiale, c'est important quand même.
Nous voulons que les Français acceptent toujours qu'une partie de leurs impôts serve à préparer le futur.
Il n'y a qu'une solution, il faut les associer, les impliquer.
La France entière va se passionner pour le ticket pour l'espace.
Notre idée, maîtresse, c'est que la France d'en bas a elle aussi le droit de monter là-haut.
Oh, c'est beau. C'est beau, André Dusselier. C'est un ticket pour l'espace.
Un ticket pour l'espace, oui. Mais il passe à quelle heure, Thomas Pesquet? Il a une chronique ou pas? Parce que
Mais excellente idée d'André Dusselier. Ah, oui, on aurait dû l'engager comme chroniqueur.
On pourrait quand même, non?
Mais bien sûr.
C'est pas prévu? S'il va y avoir à un moment donné.
Un duplex.
Vous aimeriez qu'il vous raconte quoi?
Je sais pas, vu de haut comme ça, il doit avoir des tas de choses qu'on ne voit pas, où il a des perspectives lointaines sur 3-4 mois par exemple. Non,
ça nous arrangerait.
Alors, Anne-Sophie Ladeau, notre réalisatrice, m'a dit qu'il est sur France Info tous les samedis matin. Vous devriez être programmateur, André Dusselier, parce que vous avez un flair incroyable. Est-ce que vous n'avez pas l'impression comme nous qu'il est dans la pièce d'à côté, Thomas Pesquet?
Un peu, moi je rate toujours. Enfin, je le vois de temps en temps quand même, comme ça, de temps en temps. Quand il balance un ballon de rugby comme ça, sur 10 mètres, le jour du match. Mais c'est vrai, je rate trop souvent ces interventions. On pourra faire un film quand même.
On peut trouver quelque chose pour André.
Alors un film, je me dis, il pourrait quasiment en tourner un là où il est, dans la station spatiale.
C'est prévu quand même. Il doit y avoir un agent. Il y a un agent.
Alors il y a tout un dossier dans M, le magazine du Monde de ce week-end, qui nous explique. Mais c'est vrai que c'est un super héros. Il est jeune, il est beau, avec un mental d'acier. Il envoie des belles photos et il est tellement parfait que donc les journalistes sont allés voir en se disant, mais finalement il est extrêmement lisse dans ce qu'il écrit comme tweet. Il prend des photos des Alpes et puis dit, quand je survole les Alpes, j'ai envie de skier. Alors on lui demande d'envoyer des photos d'Alep ou de Mossoul et là, bizarrement, il n'y a plus personne. André Dusselier, tout ce qui est très lisse comme ça est forcément un peu louche. Il faut toujours aller gratter derrière.
Évidemment. Ah oui, évidemment. C'est obligé. Je suis bien placé avec ce rôle de médecin qui a l'air tout à fait sympathique et agréable pour la population et qui cache beaucoup de choses. Mais c'est ce qui est le plus intéressant, les personnages lisses. Donc il y aura peut-être une deuxième partie sur Thomas Pesquet.
Vous pensez qu'il fait une propagande?
Il est cadre.
On a des révélations.
C'est vrai. Alors il travaille pour l'Agence spatiale européenne. Il est donc en quelque sorte l'ambassadeur de 22 États avec 5 milliards de budget. Sachant que la station spatiale, c'est 100 milliards d'euros sur 30 ans. C'est l'objet le plus cher fabriqué par l'homme. Donc mieux vaut être un peu lisse quand même, alors, non?
Ça rapporte.
Pas faire de boulettes. Vous sentez cette pression qu'il y a sur...
Sur Thomas Pesquet?
Oui.
Ah oui, mais il a l'air de la vivre très bien.
Ah oui, c'est sûr.
Il a la pesanteur, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà un petit peu pour ce sujet, Thomas Pesquet.
Il fait penser à un héros.
C'est un héros. Il fait penser à un personnage, à un héros.
Ça nous manque tellement, des héros.
Oui, c'est vrai.
Et qui a un peu d'altitude, comme ça. Ouais. Ça nous change un peu de ce qu'on voit, non? On ras du sol, chaque jour.
La conquête spatiale, ça vous a toujours
mais c'est ce dont on a besoin, ce que dit André Dusselier. Enfin, c'est vrai que ça répond à...
Mais
le principe, du héros, c'est aussi qu'il prend des risques, il a une certaine forme de courage.
C'est vrai.
On en a d'autres à disposition. Là, je pense notamment à... Comment s'appelle cet agriculteur là, qui a été condamné pour avoir...
Cédric Héroux.
Voilà.
Ouais.
Moi, c'est plus un héros que Pesquet, dans ma définition.
Okay. Ouais, mais il tweet moins.
Vous avez oublié que vous étiez de droite.
On est déstabilisé.
Salaud.
Repassez
passons à la... de l'autre côté avec Juliette Arnaud qui a vu le film Chez nous de Lucas Bellevaux en salle aujourd'hui avec André Dussolier.
Oui, et comme disait Alex tout à l'heure, c'est vrai qu'on ressort du film avec pas mal de questions dans la tête. Et moi, c'était la phrase on est chez nous, on est. Et là, je sais, en fait, ça m'a fait que je suis allée vers Imagine, vous savez,
oui.
La chanson. Alors officiellement, c'est la chanson la plus porteuse de paix au monde.
Ouais.
Et ben même là, John Lennon, il est comme pris d'un vieux doute à un moment dans la chanson. Mine de rien, mais bon, c'est là, c'est même bien là, quand il, à un moment, il semble s'interroger. Il dit « Imagine there is no countries, it isn't hard to do ». Bon, là, ça va. Après, « Nothing to do, to kill or die for », ok. Et à un moment, il dit « No possessions, I wonder if you can ». C'est-à-dire, il se demande si on est apte à imaginer un pays où il n'y aurait pas, enfin, des êtres humains qui seraient aptes à imaginer un monde sans possession et sans pays. Alors, si même John Lennon doute, imaginez l'autoroute que ça fait à tous les autres. Hein, ceux qui chantent, donc, on est chez nous et pas vous. Alors, cassez-vous, rentrez chez vous. Oui, c'est la suite des paroles. Je les ai inventées, je les ai déposées. Voilà. Donc, l'autoroute des autres, les moins pacifistes, ceux qui pensent que chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Soit dit en passant, sérieusement? Vous voulez pas leur foutre la paix aux vaches? Ça suffit pas, le lait, la bidoche, faut encore les mettre dans des proverbes dégueulasses. Je ferme ma parenthèse. Bref.
Beaucoup gueule.
Non, ça m'a saoulé.
Oui.
Bref, vous dire comme cette histoire de chez nous, elle est bien ancrée. Il y a sans doute même des gens pour t'expliquer que c'est inné de penser « Ouais, mais c'est chez moi » ou « Enfin, c'est chez nous ». Comme si c'était une excuse, hein, à quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit inné. Bref, de rechef. Ici, le chez nous de chez nous, c'est où? Hein, c'est quel bout de terre? Le film, il commence avec une succession de plans magnifiques. À l'aube, avant que l'humanité se mette au taf, les couleurs du petit matin adoucissent le tout, même les friches industrielles, les terrils, ou indice, et puis un paysan qui déterre précautionneusement un obus dans son champ. Bon, là, c'est sûr, on est dans le Nord. Une terre qui a morflé de manière répétitive. Chez nous, ok, on voit maintenant où c'est. Mais chez qui? Alors le spectateur, là, il se met à suivre une jeune femme, une infirmière qui va chez les autres et affronte admirablement la part fatiguée de l'humanité. Parce que quand t'es infirmière, qu'est-ce que tu te prends dans la tête? La maladie, la vieillesse, l'isolement. La part fatiguée donc de l'humanité qui, en plus, n'est pas forcément délicieuse de rapport humain. Ainsi, Émile Dequesne rentre chez une dame pour la soigner et on la voit qui part de dos, la caméra ne la suit pas et on l'entend dire « Bonjour Madame Michu, vous allez bien aujourd'hui ?» et Madame Michu de lui répondre gracieusement « Qu'est-ce que ça peut te foutre, salope ?» Moi, j'ai bien ri, tout en me disant « Bon sang, faut avoir le caractère mieux fait que la figure. » Mais Pauline, enfin Émilie Dequesne, elle tient bon, elle fait son boulot, elle fait même plus que son boulot. Et c'est ça qui la rend extrêmement touchante. Dans le cadre de son boulot, elle est costaude, alors elle en fait plus. Mais en fait, c'est pareil dans le reste de sa vie. C'est la mère courage de deux gamins dont le père qu'on voit jamais et qui semble à peu près aussi fiable qu'un tabouret de trois pieds. Son père à elle... Ouvrier et militant communiste à la retraite déprime sévèrement, peut-être il y a un lien, et elle s'en occupe aussi. Enfin, elle prend les choses en main, Pauline, même dans sa vie intime, hein, quand un type lui plaît, son amour de jeunesse, c'est elle qui dit « embrasse-moi ». Face à des hommes faibles ou à des institutions défaillantes, Pauline fait face. Alors quand le Parti nationaliste cherche à l'embrigader, on se dit qu'ils ont bien raison. Elle est démarchée par un vieux monsieur, pont du parti, il l'invite chez lui, il a une belle baraque de bourgeois installée, hein, de bon goût, et il lui dit « Fais comme chez toi ». Et elle répond « Bah ça va être difficile ». Et pourtant, elle va dire oui. Il lui dit qu'il est vieux et qu'il faut des jeunes. Elle dit que la fille patronne du parti, bah, c'est une femme comme elle. Lui, il dit que les autres partis, la gauche et la droite, sont faibles et défaillants. Et alors là, tiens, ça résonne dans la tête de Pauline. Dans la mienne aussi, en fait. Alors, je sais pas si des gens préparés à voter FN depuis 15 ans pourraient changer d'avis en voyant ce film. Je pense pas qu'ils iraient le voir, de toute façon. Ce que je sais, c'est que ce film est un fantastique panoramique d'un bout de terre et d'un moment de notre histoire. Et que chez nous, bordel, c'est aussi chez moi et chez John Lennon. Et que c'est déjà pas mal. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci beaucoup. André Dussolier, peut-être une
règle que vous voudriez réagir ou pas? Oui, c'est exactement l'ambiance du film et de ces gens qui sont désespérés. On les a rencontrés pendant le tournage aussi et qui, en effet, depuis longtemps, ont été déçus par les partis traditionnels et qui sont passés quand même de l'extrême gauche à l'extrême droite aujourd'hui. Mmh. Donc c'est vraiment un parcours qui... Mais peut-être que vous allez me donner des éclaircissements.
Moi, j'ai plus rien. Hein. J'ai plus rien
ah, l'éditorialiste de droite ramollit.
Non, j'attends que ça sonne.
Si on est dans le Nord, même si c'est un réalisateur belge, on n'est pas chez les Dardennes. C'est un film où ça cause, où ça va vite, où il y a une histoire, où ça avance. J'aime beaucoup le cinéma des Dardennes, mais on a eu tendance à en parler comme si c'était ça. Ça n'est pas du tout ça.
Effectivement. Belle mise au point. Alex Vizorek, je rappelle que vous avez vu le film avec Juliette Arnault aussi, et que vous le recommandez chaudement chez nous, de Lucas Bellevaux, en salle aujourd'hui. André Dussolier, on va aborder un troisième sujet. Pour réchauffer les relations diplomatiques avec Trump, c'est simple, il faut savoir jouer au golf déjà. Après 18 trous, on trouve un accord, paraît-il. C'est comme ça que tout s'est bien passé avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, après une poignée de main insistante et gênante, qui pourtant avait été mise en garde par ses conseillers. Hein. Shinzo Abe était mis en garde par les conseillers sur le personnage de Trump.
C'est un cas typique de mégalomanie. Cet individu présente tous les symptômes pathologiques d'une volonté de puissance de type mégalomaniaque. Il veut le soumettre à son pouvoir, contrôler ses actes, ses pensées et même ses émotions. Celui-là, c'est un affreux. Il est clair qu'il a décidé de vous pilonner jusqu'à vous réduire en bouillie. Apparemment, il a la rage. En général, ce type de malade ne tient pas à garder l'anonymat. Ils veulent surtout qu'on sache qui ils sont.
Extrait du film Une journée en enfer. Voilà. Alors, c'est un article paru dans Slate qui rappelle que chez Trump, la diplomatie passe par le golf. Alors, on s'est dit en regardant ça, c'est vrai qu'en France, si on a un homme politique qui va jouer au golf, c'est pas très bien vu, ça, non, André Dussolier. Vous jouez au golf, vous, André Dussolier ?
Non, pas du tout. Pourtant, le golf se démocratise, hein, mais c'est vrai qu'on voit pas, on n'a pas vu d'exemple de président ou de premier ministre qui joue au golf encore.
Mitterrand l'assumait. Et c'est rigolo parce que c'est un des seuls. Il allait jouer avec André Rousselet lundi matin, je dis l'article. Et il l'assumait, alors qu'évidemment, c'était la gauche. Et on imagine plutôt des gens de droite aller passer
leur temps. Alors, Obama jouait au golf et Trump le lui reprochait d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quoi ce président qui passe son temps à jouer au golf. Et là, c'est un outil diplomatique. Pourquoi pas, non ?
C'est verdoyant, c'est une promenade. Ça peut peut-être faciliter les rapports et les échanges.
C'est la nature.
Oui, c'est la nature. Ça ne veut pas dire forcément qu'il tape sur une balle.
L'image même d'être comme ça, quelqu'un d'aisé, parce que le golf donne cette image-là, elle ramène un peu au film. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont vraiment dans la misère, qui vont aller voter pour la famille Le Pen, qui, elle, ne l'est pas. Ouais. Mais ils se sentent quand même représentés par ça.
C'est vrai. Je ne sais pas s'ils se sentent représentés par ça. J'ai l'impression que la famille Le Pen leur donne de quoi être rassurés sur des problèmes qui se posent quotidiennement à eux. C'est-à-dire, bon, évidemment, le chômage, peut-être des problèmes qui n'ont pas de solution, mais ils ne le voient pas. Mais je ne crois pas que ce soit la représentation, c'est les idées quand même qui les séduisent. Et c'est,
Ça ne les dérange pas qu'ils puissent habiter dans un château, ces choses-là, quoi.
Non, on a l'impression que... Et même
le bling-bling est masqué un petit peu.
Oui, les emplois fixes, enfin, les, je ne sais pas.
Oui, les emplois fictifs.
Attention, Andréa, parce que là, j'ai senti. Service juridique, là, ils viennent d'ouvrir la porte. Il y a un point rouge sur le front, c'est
droite,
fini. Là,
sur ma droite, c'était.
C'est chaud, là.
Oui, un danger. Mais enfin, c'est vrai que. Après tout, je crois qu'aujourd'hui, on a encore mis en examen son chauffeur, non, c'est pas ça?
Son garde du corps est en garde à vue.
Et les Français sont pas. D'ailleurs, elle utilise ces arguments-là pour dire que les Français, ça les touche pas. C'est pas ça qui. Ils voient bien que c'est une manœuvre politique.
Et alors, Trump est aussi, semble-t-il, gênant dans ses poignées de main où il veut signifier des choses avec beaucoup d'insistance, en ne lâchant pas la main de Shinzo Abe qui se sent soulagé juste après. Alex rappelait que dans chez nous, vous serrez des pognes aussi.
Mais pas de la même façon. On a l'impression que chez Trump, c'est inversement proportionnel à la force de ses arguments, quoi, quand même. Hein. C'est-à-dire, il vous écrase les os de la main, mais après, il se contredit le lendemain, non? Ou alors, il invente des informations en Suède ou je sais pas où. Non, c'est étrange de vouloir absolument imposer comme ça sa puissance et puis ensuite se dégonfler.
Il y a maintenant des tutos sur Internet pour se dégager rapidement par une prise de la poignée de main de Donald Trump.
Justin Trudeau avait pris l'épaule pour être sûr qu'il ne puisse pas le rapprocher. C'était assez malin.
Il faut pouvoir s'extraire. André Dussolier, on a une petite proposition qui n'est pas du tout indécente à vous faire, qui est une tradition à la fin de l'émission.
On propose un sketch à l'invité, on lui donne un rôle qu'il a sans doute toujours rêvé de jouer. Et vous, j'ai pensé à Patrick Balkany. Parce qu'on s'est dit qu'ils avaient des problèmes avec leur fils. Est-ce que ce serait pas un peu un Tanguy, cet Alexandre Balkany? Alors, on s'est dit que vous pourriez être un bon père, Charline pourrait être une bonne maman Balkany, et Guillaume, le petit Tanguy Alexandre Balkany. On voit comment ça s'est passé, parce qu'on sait, nous, pourquoi.
Et ce fils s'appelle Patrick?
Non, Patrick, c'est vous.
Ah non, c'est moi.
Évidemment.
Patrick, c'est vous. Moi, je suis Isabelle, mon chéri.
C'est très bien. On y va, on se lance.
Non mais écoute, c'est plus possible, Patrick. Ça fait combien de temps qu'on essaye de le faire quitter la maison?
Je sais plus. Je crois qu'on comptait encore l'argent public en francs.
Oh, ça doit faire près de 18 ans.
Putain, 3 mandats à la mairie.
Mais pourtant, on a tout tenté pour le dégoûter.
Il y a 2 ans, on a annulé la galette des rois.
Oh, alors qu'il adore ça. Puis l'année d'avant, au contraire, on s'était arrangé pour qu'il ait la fève.
Qui en fait était un laxatif.
Il nous a dit, c'est normal pour un roi de finir sur le trône.
C'est abruti, il en fait même des blagues.
On s'en débarrassera jamais. Il y a un mois, hein, tu as laissé courir le bruit qu'il était ton attaché parlementaire.
Et personne n'y a cru, que j'y suis jamais au Parlement.
Ah, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire, Patrick?
Si au moins on touchait encore des allocations familiales, bordel.
On ne peut pas l'envoyer sur une île offshore, comme mes diamants.
Ou alors à Molenbeek. En prétextant qu'on veut rejouer le jumelage.
Oh non, mais attention, attention, le voilà, le voilà.
C'est le fisc, leur bataille, j'aimerais bien que je m'en aille. Oh, oh. Bonjour maman.
Oui, bonjour mon chéri.
Bonjour papa.
Bonjour.
Dis papa, concernant l'affaire de blanchiment de fraude fiscale qui vous vise, toi et maman.
Oui, on t'a demandé de nous couvrir.
Oui, tu te rappelles que j'avais déjà payé la caution de maman?
Dis, tu vas pas laisser ta mère aller en prison quand même.
Mais moi je pensais que le Valois paierait.
C'est un jeu de mots.
Oui papa, c'est un jeu de mots.
Putain, ça c'en est trop, je prends le téléphone. Oui, allô, juge d'instruction. Juge d'instruction. Oui, ça fait longtemps, dis donc. J'ai une révélation à vous faire. Alexandre Balkany, il ne reste que 60 000 euros sur son compte. Du coup, si vous lui réclamez une caution de 100 000, oui, voilà.
Qu'est-ce que tu fais, papa?
Rien, mon poulet, mon boulet, mon boulet.
D'accord, je t'aime, maman.
Oui, oui, moi aussi, je t'aime.
Je t'aime, papa.
Oui, moi aussi, mon poulet.
Promis?
Oui, promis. Promis.
Mais tu sais bien ce que j'en fais, moi, des promesses, hein.
Ouais. Tout de suite dedans.
Pas mal.
Les gens de droite, vous rentrez bien dans le personnage. C'est bon à savoir.
Mais oui, c'est intéressant, vous voyez, parce que c'est à double fond, quoi. Oui. Il y a plein de choses.
Bien sûr.
T'inquiète, hein, vous commencez à m'inquiéter un peu du solide. Moi, je suis très inquiète.
C'est des rôles riches.
Ah ouais, vous êtes parti comme ça.
C'est des rôles riches.
Vous êtes comme ça parti à fond. Juliette Arnaud, vous avez peut-être une dernière réaction, ou Alexandre Vizorek, il nous reste... Quoi, 20 secondes, 30 secondes.
Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que votre agent vous a dit quand il vous a téléphoné pour vous dire j'ai ce rôle-là.
Ah, ils ne sont pas passés par mon agent.
Et quand vous avez ouvert le CEDAR et que vous avez la première lecture, c'est quoi
vous avez gardé les 10%? C'était mon intervention, allez bien.
Non, alors, pour dire que c'est un film d'auteur, hein.
Ouais.
Franchement,
il n'y a pas de sous.
Non, il n'y a même pas d'intéressement, il n'y a pas de pourcentage, etc.
Je vous demandais pas votre salaire, moi.
Parce que, à propos de César, tout à l'heure, j'avais entendu une.
On va vérifier les comptes, on va faire du fact-checking.
Eh bien, voilà un argument de plus pour aller voir Chez nous. C'est un film d'auteur avec pas énormément de moyens. Avec André Dusselier, merci beaucoup d'être resté avec nous. On s'est beaucoup amusé avec vous. Chez nous de Lucas Bellevaux, il est en salle aujourd'hui avec Catherine Jacob, Émilie Dequesne, Guillaume Guix, Anne-Marie Vin, Patrick Descamps, Charlotte Talpart et Stéphane Caillard. On les cite tous parce qu'ils sont tous formidables. Mondi, Juliette et Alex.
Vous pouvez le faire confiance.
Et voici le mot de la fin qu'on dédie à Thomas Pesquet.
Notre idée maîtresse, c'est que la France d'en bas a elle aussi le droit de monter là-haut.